Salut à toutes et à tous, c'est Manon, il est midi 15 sur le 94 FM, vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
Résistance ! Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, c'est votre émission d'actualité locale de Canal B, le lundi et le mercredi de midi 15 à midi 45, et en rediff les mardis et jeudis à 8h15. Et aujourd'hui dans l'émission du jour, j'ai choisi de faire un sujet sur l'éducation aux médias et à l'information, en compagnie de Barbara Fontard, maîtresse de conférences et chercheuse, et on a notamment parlé de la responsabilité que portent les jeunes publics. D'ailleurs, on a encore une fois pu le voir lundi 26 janvier, avec le vote à l'Assemblée nationale de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
Et toi Lola, de quoi tu vas nous parler ?
Alors aujourd'hui je vais vous parler bar. Depuis quelques semaines, l'atmosphère du côté des commerçants à Rennes, elle est un peu tendue. D'abord il y a eu la fermeture temporaire du Tiana, le bar emblématique de la place Sainte-Anne, et depuis 15 jours des contrôles hasardeux du système de sécurité face aux incendies de tous les bars de la place sont réalisés par la mairie. Tout ça peu de temps après le drame de Crans-Montana en Suisse. L'atmosphère n'est plus trop à la fête du côté des barmen. Ils craignent même la fermeture de nombreux bars du centre-ville qui serait notamment dû, selon eux, à un phénomène de gentrification à Rennes.
Merci Lola, on te retrouve en deuxième partie de cette émission.
Et on retrouve Nina pour un billet du jour. Ça va Nina ?
Manon, je crois que j'ai un problème. Hier matin, j'étais avec un commandant, un procureur, un colonel et le préfet.
Ça commence comme une mauvaise blague. Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'es impliqué dans une affaire criminelle ?
Non, encore pire. J'ai l'impression de devenir de droite.
C'est-à-dire ?
Hier, midi 15, hôtel de la préfecture de la région. Une salle de réunion, 4 personnes en costard alignées à une table, un commandant, un colonel, le procureur général près la cour de Rennes et le préfet. On a parlé de trafic, d'économie souterraine, de blanchiment d'argent, de commerces illégaux, de saisines, de délits et d'enquêtes. Bon, j'étais pas toute seule, hein. On était plusieurs médias. 20 minutes, France 3 Bretagne, Ouest France, etc.
Et alors ?
Eh ben, je crois que j'ai aimé ça. En fait, c'était une conférence de presse pour parler du GIR, un groupe interministériel de recherche qui enquête sur toutes sortes de délits, du travail illégal au trafic de stupes, bref, tout ce qui touche à l'économie informelle. À Rennes, les opérations de ce groupe ont eu comme résultat 10 millions de saisines en 2025, et sur tout le territoire français, c'est environ 300 millions d'euros qui ont été saisis l'année dernière.
Un petit montant quand même à reverser au budget de l'État.
Oui. Alors, chers auditeuristes, je vous entends d'ici. Oulala, sur Canal B, ils font la pub de la préfecture maintenant. En vrai, non. Je dis juste que le sujet était intéressant. Comment on suit et on interpelle les personnes faisant du trafic ? Quels outils la justice a à sa disposition pour essayer de suivre le rythme de ces trafics qui se renouvellent assez rapidement ? Ce qui m'a un peu fait rire, par contre, c'est la devise du GIR. Bien mal acquis ne profite jamais. Une vraie devise à en faire pâlir les voyous, comme le préfet aime à appeler les personnes visées par ce groupe. En bref, c'est vrai que cette conférence de presse, et globalement toutes les conférences de presse des institutions publiques, c'est quand même une manière pour le préfet, le ministère de l'Intérieur et globalement les forces de l'ordre de se créer un peu de soft power et de se faire de la pub.
Du coup, c'était nouveau poteau ?
Plutôt non. Le préfet, ça reste le préfet. Les préfets, ils sont nommés par le président de la République en Conseil des ministres, sont des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Globalement, ce ne sont pas les amis du peuple, en tout cas pas en ce moment. Notamment parce que ce sont eux et elles qui prennent les décisions lorsqu'il s'agit d'interdire ou d'autoriser les manifestations et du dispositif de la force qui va être mis en place.
Et le préfet d'Ille-et-Vilaine en ce moment, qui c'est ?
Le préfet est nouveau puisqu'il a été nommé à Rennes en novembre. Il s'appelle Franck Robine et il nous vient tout droit du cabinet de Bruno Retailleau. C'était son directeur de cabinet même.
Aïe aïe aïe.
Et oui, comme il l'a rappelé pendant la conférence de presse hier, il a notamment participé à la rédaction de la loi contre le narcotrafic votée en juin 2025 par les parlementaires.
On verra bien son style lorsqu'il s'agira de gérer les manifestations rennaises. Could it be so good? Can I truly show you everything you've ever wanted? Or could it be so bad? Can it rip you sideways, ruining the bestest thing you had? I don't think it can.
mess everything up according to the scales.
Vous venez d'écouter Saving a Free Seat de Centromatic. Vous êtes toujours sur 3 en 1 et c'est parti pour l'interview du jour en compagnie de Barbara Fontard. L'éducation aux médias et à l'information, aussi dit EMI, est un sujet qui fait souvent parler, notamment pour les scolaires. Théoriquement, le gouvernement donne la possibilité aux élèves d'accéder à des heures dans leur emploi du temps pour apprendre et comprendre l'usage des différentes formes de médias. Mais cet accès n'est pas si simple puisqu'il existe des inégalités d'accès entre les élèves en fonction des appétences de leurs professeurs et du temps qu'ils ont à leur donner. Et dans le même temps, le gouvernement cherche à limiter l'accès aux réseaux sociaux chez les jeunes. Pourquoi l'éducation aux médias et à l'information est instable aujourd'hui et pourquoi on se trompe de cible en faisant porter cette responsabilité au jeune public? Pour répondre à ces questions, je suis aujourd'hui avec Barbara Fontard, maîtresse de conférence des sciences de l'éducation et de la formation à l'université Rennes 2 et chercheuse rattachée au CREAD, le centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Quand on parle d'éducation aux médias et à l'information aujourd'hui, de quoi parle-t-on vraiment ?
C'est toute la difficulté, c'est que l'éducation aux médias et à l'information peut renvoyer en réalité à des pratiques plurielles, des pratiques pédagogiques plurielles, mais aussi à des objets. Qu'est-ce que les médias ? Qu'est-ce que l'information ? Et donc derrière ces termes, eh bien, en réalité, il y a justement une pluralité d'éducation aux médias et à l'information. Quand on parle d'information, de quel type d'information on parle ? Puisque l'information, ça renvoie le plus souvent dans les esprits à l'information d'actualité, mais il y a tout un tas d'autres informations qui ne sont pas des informations d'actualité, qui sont des informations documentaires, culturelles, des ressources pour la connaissance. Et donc, l'information renvoie à différentes formes, différents types d'informations. Et éducation aux médias, de quels médias parle-t-on ? Des médias dits traditionnels que sont la presse, la radio, la télévision, mais aussi les médias sociaux, que sont les chaînes YouTube, que sont les réseaux sociaux numériques, plus largement Internet. Donc en réalité, eh bien, cette éducation aux médias, elle est très plurielle. Maintenant, l'éducation aux médias telle qu'elle est envisagée le plus souvent aujourd'hui dans la société actuelle, elle renvoie soit à la question malheureuse, j'ai envie de dire, des écrans, parce que parler des écrans, ça ne veut pas dire grand-chose. Très centré sur les réseaux sociaux, numériques en particulier, malgré tout, et sur les pratiques culturelles ou médiatiques numériques juvéniles. Donc ça, c'est un premier objet de l'éducation aux médias actuellement. Le deuxième, c'est une focalisation aussi sur les questions de désinformation.
Donc lors du colloque d'éducation aux médias et à l'information qui a eu lieu en décembre dernier, vous avez participé à la table ronde sur le thème « L'éducation aux médias, politique éducative structurée, champ éclaté ou transversalité à construire ». Lors de cette table ronde, vous avez notamment parlé d'une instabilité de l'éducation aux médias. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par instabilité ?
Le fait que les objets de l'éducation aux médias soit plurielle, fait qu'elle n'est pas homogène, puisqu'il existe une pluralité d'objets de l'éducation aux médias et à l'information. Donc c'est une première dimension, on pourrait dire, de son instabilité. Une autre dimension, c'est le fait qu'il existe plusieurs approches de l'éducation aux médias. Est-ce que l'on veut éduquer pour protéger ? Et en réalité, dans ces cas-là, c'est souvent pas une éducation, mais plutôt une éducation contre les médias qui vise à protéger, éloigner les publics des médias. Et puis, il y a d'autres approches qui s'opposent un peu à celle-ci, protectrice, qui est l'approche, j'ai envie de dire, plus créative, où il s'agit de faire des médias. Donc, vous voyez que les objets, les manières de faire, les approches peuvent être plurielles. Et puis aussi, ce que l'on constate, c'est une instabilité des politiques en matière d'éducation aux médias. Il existe énormément de dispositifs d'action publique en matière d'éducation aux médias, souvent actuellement qui sont porteurs plutôt d'une vision protectionniste ou autour des fake news, donc d'une approche plutôt citoyenne. Mais il n'existe pas une action publique coordonnée. Il n'y a pas de politique interministérielle, par exemple, de l'éducation aux médias et à l'information. Une collègue, Isée Vaucher, parle d'un flou constitutif de la politique publique en matière d'EMI, donc des instruments de politique publique qui sont essentiellement incitatifs, mais rien n'est stabilisé. Donc on a une démultiplication des actions au sein de tout un tas de ministères. En fait, on peut parler d'une, comme le dit Isée Vaucher, d'une nébuleuse d'actions publiques. Et ce qui met en difficulté en fait les acteurs qui mettent en œuvre cette éducation aux médias, parce que les acteurs vont concrètement mettre en œuvre quelque chose qui est assez mal défini, assez mal circonscrit en réalité.
Mais dans un cadre scolaire, comment l'éducation aux médias et à l'information est intégrée dans le programme ? Est-ce que c'est comme un enseignement à part entière ou est-ce qu'il est greffé à plusieurs autres enseignements ?
Alors, il y a de l'éducation aux médias à l'école. Mais il n'y a pas que de l'éducation aux médias à l'école, ça c'est une première chose. Et ce n'est pas un enseignement, c'est une éducation à. Donc il n'y a pas d'heure dédiée spécifique dans les emplois du temps. C'est aussi cela qui met en difficulté les enseignants qui, par ailleurs, sauf un dont c'est le métier spécifique de développer,
qui sont les maîtres d'œuvre de l'éducation,
professeurs documentalistes, les autres enseignants, dans leur feuille de route, en quelque sorte, ont l'obligation de déployer cette éducation média qui est donc transdisciplinaire, interdisciplinaire. Chaque enseignant est censé, dans ses enseignements, mettre en place d'une manière ou d'une autre de l'éducation aux médias. La difficulté, c'est qu'ils ont aussi un programme et qu'ils ont de grandes difficultés justement à trouver le temps de mettre en place des dispositifs d'éducation aux médias et ils n'ont pas d'heures dédiées dans les emplois du temps pour cela. Donc c'est au bon vouloir, en fait, le plus souvent des enseignants. Maintenant, c'est certain que les professeurs d'histoire-géographie sont des enseignants majeurs de l'éducation aux médias et à l'information, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'EMC. Et donc là, on voit que éducation aux médias et à l'information et EMC se recoupent. Il y a également, bien sûr, les professeurs documentalistes. Alors, les professeurs documentalistes, dans certains établissements, au collège, vont avoir une heure dédiée dans l'emploi du temps des élèves pour pouvoir mettre en œuvre de l'éducation aux médias et à l'information. Mais le plus souvent, c'est réduit à une heure par semaine en sixième. Ensuite, ça disparaît. Donc, la mise en œuvre de l'éducation aux médias à l'école, elle n'est pas simple. Elle se fait aussi beaucoup par projet. Notamment, là, ces dernières années, on a eu de la part du ministère une volonté de mettre des web radios. Mais là encore, ça repose sur le bon vouloir des enseignants qui ont très peu de moyens en réalité.
Vous parliez à l'instant de l'EMC, donc l'enseignement moral et civique. Ça peut sembler compliqué de différencier l'EMC de l'EMI, même si c'est deux choses qui sont différentes, mais qui peuvent se recouper, comme vous l'avez dit. Et par conséquent, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de faire de l'éducation aux médias et à l'information un enseignement en lui-même, alors que, comme vous l'avez expliqué, le système actuel, il semble compliqué à mettre en place pour les professeurs qui ont notamment des programmes à terminer?
Bah, ils ont des programmes à faire et puis en plus ces enseignants ne sont pas toujours formés à l'éducation aux médias et à l'information. Et donc c'est vraiment en fonction de la manière dont chaque enseignant va s'approprier en fait cette injonction à faire de l'éducation aux médias. Finalement c'est une politique publique du bon vouloir des acteurs mais aussi du pouvoir des acteurs, de la possibilité de le faire. Alors cette idée de créer un enseignement spécifique, elle est discutée notamment par les chercheurs. Dans les autres pays, cette éducation aux médias et à l'information, elle n'est pas forcément déployée de la même manière, c'est-à-dire de cette manière transversale en France, et relève d'enseignement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande à l'école d'intervenir, d'éduquer à beaucoup de choses. Au-delà des disciplines classiques scolaires que nous connaissons bien, il y a l'éducation aux médias et à l'information, il y a les EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il y a l'éducation au développement durable, l'éducation morale et civique, etc., etc. Là, je n'en cite que quelques-unes. Il y a aussi évidemment l'éducation artistique et culturelle. Donc, vous voyez, il y a énormément d'éducation à, et l'ensemble des enseignants, parce qu'on parle d'EMI, mais en fait, il y a une pluralité d'éducation à, que sont censés mettre en œuvre les enseignants. Si chacune de ces éducations A devait faire l'objet d'un enseignement spécifique, bien les emplois du temps et la forme scolaire telle qu'on la connaît, les curricula que l'on connaît actuellement, seraient drôlement bouleversés. Donc, on fait rentrer au chausse-pied hein, tout un tas d'éducation A, mais finalement en donnant très peu de moyens et très peu de temps aux enseignants.
Donc, ce que vous nous expliquez, c'est que cette instabilité, c'est un problème pour les enseignants, mais aussi et donc surtout un problème pour les élèves, car ils n'ont pas tous accès à la même éducation aux médias et à l'information, d'un établissement à l'autre et même au sein d'un même établissement. Selon le projet de loi constitué par l'AFP, donc l'Agence France Presse, il y aurait une volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les portables au lycée dès le 1er septembre 2026. Est-ce que pour vous, c'est la solution ?
Non, bien évidemment, ce n'est absolument pas une solution. En fait, éduquer, ce n'est pas interdire. L'interdiction n'est pas une forme d'éducation. Et c'est nier la réalité, c'est-à-dire que c'est nier le fait que, en dehors de l'école, des enfants, des préadolescents, des adolescents, de toute façon, pratiquent les réseaux sociaux, les médias sociaux, les jeux en ligne. En fait, c'est nier la réalité des pratiques culturelles juvéniles. Donc, plutôt que les nier, il s'agirait plutôt d'accompagner ces pratiques et accompagner ces enfants, préadolescents et adolescents à un usage, j'ai envie de dire, réflexif de ces supports, de ces outils qui sont pour eux d'extraordinaires supports au divertissement, à l'information et à la culture. Donc pour moi, c'est très paradoxal en fait de porter une politique dite d'éducation aux médias et à l'information et que cette politique d'éducation aux médias et à l'information soit en réalité une éducation contre les médias, mais aussi contre la jeunesse presque.
Yaraya de Rachid Taha. Et tout de suite, on retourne en plateau, toujours en compagnie de Barbara Fontard, enseignante-chercheuse. On parle éducation aux médias et à l'information et responsabilité des jeunes publics. Chacun en leur temps, on a pu entendre dire que la presse, la radio, la télévision et même les jeux vidéo étaient dangereux pour les utilisateurs et les publics. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui responsabilisent les enfants et jugent les réseaux sociaux comme abrutissants ?
Oui, bon... Voilà, donc ça c'est une erreur de jugement par manque de connaissances. Il y a 100 ans, on disait du cinéma qu'il était dangereux, voilà, quand le cinéma est devenu une pratique culturelle populaire, on disait du cinéma qu'il était dangereux et qu'il fallait protéger les enfants du cinéma. On a dit exactement la même chose de la télévision. Moi, je suis de la génération du Club Dorothée. Goldorak a fait l'objet d'énormément de critiques, pour ne citer que cet exemple. La presse populaire a été également considérée comme dangereuse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des paniques morales. Ce sont des paniques morales. Alors, ce concept a été conceptualisé par un chercheurs, il montre qu'effectivement, en fait, il y a des pratiques culturelles qui font l'objet comme ça de discours, de réactions publiques qui sont complètement dramatisées. En fait, une pratique culturelle juvénile est perçue comme menaçante. Et chaque génération a son coupable. Donc, tout au long des siècles, effectivement, cinéma, littérature populaire, radio, autre chose que les médias, mais par exemple les flippers, la télévision, les jeux vidéo, rendraient violents.
Alors que ce sont des outils de divertissement.
Les travaux sont très clairs. Aucun jeu vidéo ne rend violent. La télévision n'abrutit personne. Les travaux, les recherches ne montrent pas cela. Ils montrent des limites, ils montrent des effets positifs. Ils montrent surtout que ce sont des supports au divertissement. Et l'erreur, en fait, c'est de constater qu'effectivement, les jeunes consomment beaucoup de médias pour se divertir. Mais le divertissement ne veut pas dire abrutissement. Nous avons tous besoin de nous divertir, de relâcher la pression. Face à la pression scolaire, notamment, la décompression est extrêmement importante. Donc les médias n'ont jamais produit de jeunes crétins. Et par contre, on a des exagérations, des clichés, des discours faits de clichés, d'exagérations, qui sont portés par des moralisateurs. Donc le chercheur qui parle de panique morale parle de ces entrepreneurs de morale, mais qui en fait se trompent.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en attend pas trop de l'école en matière d'éducation aux médias et à l'information ?
C'est difficile de répondre comme ça. Si l'école avait véritablement les moyens de réaliser cette éducation aux médias et à l'information, ce serait formidable. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, quand on regarde... Alors, ce sont les travaux de ma collègue Anne Cordier qui montrent que du côté de l'école, justement, l'éducation aux médias est plutôt du côté des élèves, de leurs souvenirs, elle est assez ambivalente. C'est vrai qu'il y a des sensibilisations à la recherche d'informations, mais par exemple, la question des réseaux sociaux numériques, des jeux vidéo, la question de la violence des images, des discours de haine n'est pas travaillée. Donc en fait, c'est une éducation aux médias qui s'ancre sur les apprentissages scolaires, sur développer des compétences en lien avec la réussite scolaire, mais qui est assez éloignée finalement des pratiques culturelles juvéniles. Or, ce serait, à mon sens, intéressant qu'il y ait des apprentissages autour des stratégies, des plateformes notamment, les jeunes apprennent en fait à comprendre ces stratégies, ces logiques, que ce soit sur les réseaux sociaux numériques, mais aussi par exemple les logiques de fabrication, de construction de l'information, etc. À l'égard des travaux, on s'aperçoit que finalement, c'est un apprentissage qui reste assez peu relié à leur pratique, ou alors, quand c'est lié à leur pratique, il arrive un peu trop tard, parce que les usages sont déjà fortement installés. Ça, c'est Anne Cordier qui le montre, et finalement, Anne Cordier conclut en disant « Pour les élèves, l'éducation aux médias n'apparaît pas comme une priorité pour l'éducation nationale ».
Donc si je comprends bien, aujourd'hui ce sont les enfants, les préadolescents et les adolescents qui semblent pointer du doigt. Est-ce qu'il y a d'autres publics qui sont ciblés par cette instabilité de l'éducation aux médias et à l'information ?
Là, pour le moment, ce sont bien les jeunes que l'on vise, c'est-à-dire qu'on les punit finalement, et c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités, mais pas que eux. Les parents sont énormément culpabilisés également. Hein. On travaille beaucoup sur la question des parentalités numériques avec deux collègues, Agnès Grimaud-Leprince et Michael Lemintec, et on montre combien les parents ont complètement intégré le discours du danger, des dangers des écrans, qui est un discours qu'il faut complètement déconstruire hein, à l'aune des résultats de la recherche. Les écrans ne sont pas dangereux en soi du tout, mais il y a cette culpabilisation qui est faite à l'égard des parents, à l'égard des enfants, que l'on stigmatise. Hein. Ces deux acteurs, en quelque sorte, sont culpabilisés, stigmatisés, responsabilisés, alors que les questions sont apportées plutôt au niveau des plateformes, en fait. Hein. C'est exactement la même chose que pour les questions d'écologie, finalement. On est sur le même processus, on essaye de faire porter sur des acteurs éducatifs quelque chose qui relève d'une responsabilité politique et économique en réalité. Mais on n'en est pas là.
Eh bien, merci Barbara Fontard d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, vous êtes maîtresse de conférence des sciences de l'éducation et de la formation à l'université Rennes 2 et chercheuse rattachée au CREAD.
Merci beaucoup pour ce moment, merci.
Thank you.
ensuite, on retrouve Lola qui s'est rendue à Sainte-Anne pour nous parler de la situation des bars rennais.
Depuis 15 jours, les bars de la place Sainte-Anne et des rues qui l'entourent sont dans le viseur de la municipalité. Depuis l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, les autorités sont aux aguets et multiplient les contrôles d'énormes incendies, ce qui pèse dans l'atmosphère habituellement festive de la place. Dans ce bar de la rue de la Soif, un contrôle a justement eu lieu quelques jours avant ma venue. Conclusion de la visite, le sous-sol du bar restera fermé jusqu'à la fin des travaux.
Je ne sais pas si c'est un changement de moment, mais je pense que ça fait un peu de peur presque. Un truc d'épée de Damoclès, alors que pas forcément, et tu fais pas du mauvais travail, et tu fais attention à ta clientèle et à faire ton truc au mieux. En même temps, il y a un côté où on a l'impression que ça se traque de tous les côtés pour plein de raisons. C'est le côté que ça paraît presque, je peux dire hypocrite, mais tout d'un coup, tout le monde à Sainte-Anne se fait contrôler, tout le monde à Rennes. On sait très bien qu'il y a une majorité des bars à Rennes. Quand tu vas dedans, il y a plein de trucs où... Tu sais, donc quand tu vas dans ces bars-là, que c'est pas forcément très très énorme. Pour autant, les gens font très attention à la sécurité de leurs clients. Mais c'est vrai que le fait que du coup, en 15 jours, tous les bars à Rennes se sont dit « bah ça va me tomber sur la tête », alors que je pense que tous ces gens-là, toutes ces commissions-là, ça va être probablement avant.
Après le contrôle de la mairie, plusieurs bars ont été obligés de jeter la clé sous la porte, faute de moyens pour effectuer les travaux nécessaires. Après 3 fermetures rue de la Soif, les gérants de ce bar craignent aussi un changement d'identité de leur rue.
Cette rue, c'est la rue des jeunes étudiants. Et ce serait dommage qu'à la fin, on n'ait plus de rue pour les très jeunes étudiants. Où vont aller les jeunes étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent pour dépenser, qui ont 20 balles pour dépenser dans leur soirée, si tous les bars qu'on expose, qu'on envoie vers les Mailles, vers Saint-Germain, vers... Mais bon, la pinte, elle a 6 balles. Donc c'est plus difficile. On va perdre un peu, je pense, cette dynamique qui fait que Rennes, c'est super.
La rue de la Soif, il y a 10 ans, c'était la rue des bars à Rennes. Chaque soir, l'ambiance étudiante envahissait les pavés. C'était ce qui faisait de Rennes. Rennes, aujourd'hui, on peine à distinguer les façades des bars qui animaient autrefois la rue. Au fur et à mesure que les établissements ont fermé pour insalubrité, la mairie a racheté une grande partie des immeubles. Aujourd'hui, ces anciens bars restent vacants. L'atmosphère est austère. Pour ce gérant d'un des derniers commerçants survivants, la rue de la Soif est morte pour de bon.
La rue de la Soif, maintenant, ça va être le Mail, tu vois. Donc je pense qu'ils sont vraiment délocalisés, en fait, la rue, tu vois, et fait en sorte qu'il n'y ait plus rien ici, pour que de part, ça soit plus facile, quoi. Pour eux, en tout cas, ouais.
Gérer le bruit, les fêtards et l'alcool. Selon ce bar, place Sainte-Anne, la municipalité fait le grand ménage. Connus pour leur identité militante ancrée à gauche, ces lieux emblématiques de Rennes seraient menacés, selon ce barmaid.
C'est toujours sur la gauche qu'on tape, et c'est le rapport de gentrification, de fascisme, de droite qui monte. Tout est concret et ça devient une évidence, quoi.
La gentrification, ce processus par lequel la population d'un quartier populaire est remplacée par une couche sociale plus aisée, c'est le sujet qui revient dans mes discussions avec les 5 barman. Et selon des habitués du bar Le Tiana, qui a récemment écopé d'une fermeture d'un mois après des débordements le soir du Nouvel An, les contrôles incendies des bars du centre ne sont pas faits au hasard.
Genre, il y a une vraie volonté de tège les gauchistes de Sainte-Anne, et je pense que ça, on a tous conscience et on le voit tous. Surtout quand on voit le harcèlement que le petit bar et le Tiana ils subissent dès qu'il se passe des trucs, au niveau de ce qu'on vit et de ce qu'on voit. Ouais, je te dis, dès qu'il y a une manif, dès qu'il se passe un truc, tout le monde est agglutiné là au petit bar et au Tiana. Il y a des cordons de CRS tout le temps devant. Enfin, tu sais, il y a vraiment un truc en mode de mettre la pression pour qu'on n'ait pas envie d'être ici, quoi. Ils ont envie d'embourgeoiser leur centre-ville, c'est sûr.
Merci Lola et à tes intervenants et intervenantes pour ton reportage, et merci à Barbara Fontard d'avoir répondu à mes questions au micro de Canal B. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve lundi à 12h15 pour une nouvelle émission, ou dès demain en rediffusion de 8h15 à 8h45. Bon après-midi.